L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
C'est pas les scouts, monsieur, ça, c'est une mazurka, ça. Oui.
Et bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho du Parquet,
bonjour.
L'émission qui met le feu au plancher, bonjour, et que vous pouvez entendre si vous habitez en Drôme Ardèche et que vous avez cette chance, vous pouvez l'entendre sur Radio Méga, Radio Saint-Ferréol ou Fréquence 7, et sinon vous nous écoutez sur notre audioblog Arte Radio. Vous l'aurez remarqué si vous êtes familier des musiques traditionnelles ou de cette émission. Il y a plein de directions vers lesquelles peuvent s'allonger les tentacules de l'hydre tradeuse. Et aujourd'hui, on voulait s'attarder sur l'une de ces directions, elle-même multiple, vous allez voir, qui va chercher du côté des musiques expérimentales.
Alors, c'est celle du collectif La Novia, une émission spéciale. Donc, on écoutera exclusivement des groupes dont les membres sont de ce collectif La Nov. On prendra le temps d'en saisir la forme avec la rencontre de 5 membres parmi la quinzaine de personnes qui le composent. 5 membres qu'on a rencontrés à 2 occasions différentes, qui expliquera un petit peu les variations d'ambiance.
Mais toujours une bonne ambiance.
Ouais. On commence avec Bonjour, bonjour, voilà une manière de se souhaiter la bienvenue avec une chanson du duo Puech Gourdon.
Pas de frais, tu n'en crois pas. ben donc oui, moi c'est Yann Gourdon. Je joue principalement de la vielle à roue. Et mes débuts dans la musique, moi j'ai débuté à faire de la musique vraiment tout petit, dès l'âge de 5 ans, mais j'ai commencé la vielle à roue à 12 ans.
Qu'est-ce que tu faisais à 5 ans ?
Du piano classique. Ça m'a pas trop emballé et un jour j'ai découvert cet instrument-là qui a été un peu... Enfin, qui m'a porté pendant de longues années encore jusqu'à aujourd'hui. Et aussi encouragé par mon père qui était lui-même musicien, violoneux. Et voilà, j'ai d'abord évolué dans le milieu du bal folk dans la scène grenobloise. Et justement, avec mon père, on avait un groupe dans lequel j'ai joué pendant 10 ans qui s'appelait Jal. Et voilà, puis après moi grandissant et puis avec cet instrument aussi, la vielle, qui peut assez facilement être ingrat et qui peut générer toutes sortes de sons parfois incontrôlés et tout type de bruits parasites qui ont commencé aussi à me fasciner. Et j'ai eu envie d'en faire quelque chose et c'est comme ça que ça m'a petit à petit dévié aussi vers des pratiques de musique expérimentale et à découvrir les musiques expérimentales. Ce qui m'a amené d'ailleurs à aller faire des études à Villeurbanne en composition contemporaine et électroacoustique. Et donc petit à petit, ça m'a un peu écarté du milieu du bal folk. J'en suis même complètement sorti. Et il m'a fallu une rencontre via un disque de collectage, qui était un disque d'Antonin Chabrier, violoneux de l'Artense, dans le Cantal. Et en écoutant le son de ce violoneux, ça a tout de suite résonné en moi parce que, en même temps, je découvrais un autre violoniste qui, lui, était un violoniste américain qui jouait de la musique expérimentale sur un violon amplifié et dont il jouait des sons continus, en fait, des bourdons très très longs à des volumes assez forts, mais qui généraient un timbre que j'ai retrouvé dans le son d'Antonin Chabrier, et là d'un coup ça a fait comme une sorte je me suis dit tiens, en fait ces musiques là que j'ai un peu délaissées, finalement il y a peut-être des choses à y retrouver. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réécouter aussi ces musiques là et ça a coïncidé avec le moment où avec Elodie on s'installait à Clermont, donc il y avait les Braillots pas très loin. C'est là que j'ai rencontré Jacques Basile et commencer un petit peu à jouer dans les boeufs, ce répertoire-là que je découvrais aussi, quoi. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on a monté le collectif, la Nome, aussi avec un ami Guillaume que lui, on s'était rencontré en classe de composition à l'ONM, et on avait commencé à bricoler des choses, mais ça a fait que d'un coup, tout s'est rencontré, et puis ça a lancé cette aventure de la Nome. Il y a les relations humaines qui sont très fortes dans la Nome, qui sont importantes aussi, je pense qu'ils sont essentielles, et qui fait que le collectif est encore là toutes ces années après. Mais je crois que, en tout cas pour moi, je sais que la rencontre, elle s'est faite parce que je découvrais ces enregistrements de collectage. Mais je ne savais pas que des gens jouaient ça. Et puis un jour, j'ai vu Basile en bal. Je me souviens très bien, c'était avec Faipeta. Et ça s'est mis à résonner en moi. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille lui parler.
À l'époque, je ne sais pas, je crois qu'il y avait un attrait. Alors pour aller chercher le...
Basile Brémaud, violoneux, membre du collectif La Nove.
La substance musicale de la pratique des anciens musiciens traditionnels, essayer de retrouver ce qui, dans leur pratique, avait une identité singulière, en fait. Et alors bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, mais je crois que du coup, au-delà d'aller chercher des éléments de répertoire, du vocabulaire, en fait, c'était un petit peu avoir une oreille un peu plus ouverte sur toutes les questions sonores, en fait, qui sont présentes dans ces pratiques-là, que ce soit au niveau du rapport au timbre, aussi aux échelles musicales qui peuvent être personnel, singulier, quoi, ces traditions-là. Ça peut être le rapport au son, mais aussi à l'énergie en lien à la danse, etc. Bon, plein d'ensemble de choses. Dans tous les cas, il y avait une curiosité, quoi, de replonger, se replonger par l'écoute dans cette musique-là et d'en tirer de la matière qui alimente, quoi, notre pratique. Et voilà, et ça, en fait, ces rencontres-là, ben, ça constitue un peu le ciment d'après la bande qu'on a formée, entre autres, mais une des bandes qu'on a formées autour du collectif La Nobie, où on s'est bien retrouvé sur ces choses-là, quoi.
Pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette structure-là qui vous, voilà, qui fait quoi en fait ?
Ça permet d'avoir une assise qui repose non pas sur soi en tant que personne, mais sur un collectif. Et c'est le collectif qui va porter ça et qui va porter aussi toute la diversité du collectif. Et encore une fois, il n'y a pas une esthétique, il y a autant d'esthétiques qu'on est d'individus dans ce collectif.
Ben, quand même, je trouve que sur le faire collectif, alors il y a tout ce qu'a dit Yann, évidemment, et puis, mais à la fois, ça m'a complètement ouvert le champ d'intérêt, de curiosité, en fait, musical, en fait, parce que le fait d'être réunis dans ce collectif, ça m'a autorisé, enfin, plein de choses, fait découvrir plein de choses musicalement, et je me suis senti légitime, et ça m'a autorisé à essayer plein de choses vers lesquelles j'aurais pas été si j'avais été tout seul, quoi. We'll be right back.
fait, nous, oui, on a un collectif. Alors, il y a plusieurs façons de...
Elodie Ortega, chargée de production et graphiste à la Nov.
De dire qu'en fait, c'en est un. Par exemple, en fait, il y a un côté très horizontal, en fait, dans la Novia. Tout le monde est payé pareil. En fait, on est, il n'y a pas de directeur ou directrice, en fait, dans ce collectif. Tout le monde est payé pareil sur un cachet de, qui est fixé à un montant brut de notre convention collective, en fait. Sur les résidences, pardon, et sur les temps de concert. Et il n'y a pas de différence de salaire entre les musiciens et musiciennes. Et sur les porteurs projets et techniciens. En fait, on a tous un avis à pouvoir donner qui va être écouté, en fait, quels que soient en fait, les individus qui vont porter ça. Il n'y a pas de directeur artistique dans le sens où les gens qui peuvent proposer des créations, ce n'est pas défini par des gens, mais des volontés d'avoir envie de proposer quelque chose au groupe, en fait.
Ouais, puis je vais compléter. Donc moi, je me présente en tant que musicienne, mais en fait, je fais pas que de la musique dans le collectif.
Perrine Bourrel, violoneuse, membre du collectif Lanor.
On a vraiment aussi, on s'est organisé pour pouvoir prendre collectivement des décisions. Il y a des commissions, voilà, des groupes de travail, et on se retrouve régulièrement pour ensemble. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent décider des choix importants à prendre quoi, pour le collectif.
Du coup, ça évoque un peu cette question. À quoi il sert ce collectif ? Est-ce que c'est comme une boîte de production, c'est-à-dire elle promeut des groupes et des artistes en faisant la diffusion et en produisant leurs albums ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est ça plus autre chose ?
Alors, après tu pourras compléter, Elodis. C'est d'abord des rencontres humaines, ce collectif, et pas du tout, en tout cas moi quand je suis arrivée, c'était pas du tout dans un but de produire le duo avec lequel je suis rentrée, qui est le duo violoneuse, mais plutôt pour rencontrer des gens et dynamiser le jeu, les rencontres, voilà, ça c'est la première réponse.
Et quand même dans l'idée aussi de produire en fait de la création. Donc la Novia, c'est en 2009 que ça a été déposé au niveau de la préfecture. Et moi je suis arrivée en poste en 2011 avec l'idée de produire la Barakande et de chercher des financements qui pourraient permettre en fait aux musiciens sur la création d'être payés en fait. Donc il y a quand même cette idée là. Et après où je rejoins Perrine, c'est qu'effectivement après sont arrivés des musiciens, musiciennes qui arrivaient avec plutôt dans une volonté de vivre des choses humainement. Mais la Noble, en tout cas, ça permet quand même de soutenir beaucoup la création. Enfin, c'est un outil vraiment d'entraide. Tout le monde est payé pareil. On essaie de... Voilà, c'est du bien commun, quoi. C'est un peu un pari politique, en fait, de faire ce qu'on veut, nous, notre argent et notre façon, en fait, de nous gouverner, quoi. On est conventionné par la DRAC, donc effectivement maintenant on est conventionné depuis 6 ans, donc le conventionnement ça nous permet quand même d'avoir une enveloppe qui est moins définie à une création. Par contre effectivement quand même on est tout le temps dans un schéma en fait d'avoir une création un peu principale, mais malgré tout il y a des temps par exemple de salariat qui vont profiter à des gens qui sont pas forcément en fait porteurs de projets ou dans les projets effectivement qui seront en création sur l'année.
Où est-ce que vous êtes basé et est-ce qu'il y a un ancrage territorial aux musiques de la Neuve, enfin en tout cas aux musiciens de la Neuve?
Alors en fait on est basé en Haute-Loire. En fait on a, enfin moi par exemple comme j'habite la Haute-Loire, on n'est pas nombreux à être sur la Haute-Loire, on est 3. On a un lien vraiment, moi je fais partie du CDMDT 43, je suis dans le CA, on a travaillé avec des élus là-bas, on essaye vraiment, on s'efforce de rester en fait à faire de la résidence et de la création en Haute-Loire, même si des fois c'est difficile. Après, je laisse Perrine répondre sur le côté artistique.
Il se trouve que là, la majorité des musiciens musiciennes connaissent le répertoire du Massif Central. Et ça va jusqu'aux Cévennes, jusqu'au Lot aussi, enfin au Abidjan là. Et moi, c'est la partie Hautes-Alpes, Rigaudon. Il se trouve qu'on porte ces répertoires-là. C'est comme ça que ça s'est fait. Peut-être si quelqu'un était arrivé avec du répertoire breton, je ne sais pas, on aurait... Bien sûr, c'est pas ça en tout cas qui... Mais c'est pas ça qui a fermé, qui a dit « Allez, on va s'attacher à ce répertoire ». C'est des personnalités, en fait.
Je suis pas sûre qu'un breton, il serait vraiment... Attention à ce que tu dis. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, je sais pas si vous auriez rencontré vraiment dans d'autres... Tu vois qu'il n'y avait pas... te souhaite, je crois, de jouer...
Ah, il y a Mater aussi qui joue le répertoire du... Oui, mais... De Pagans, qui joue le répertoire de... Voilà. Ouais. Bah, je pense que c'est des personnalités. Et, oui. Et c'est lié aussi, bien sûr, si on n'a pas rencontré de Breton, c'est que c'est lié aussi à comment ces musiques-là ont avancé, comment elles se sont développées. Et en Bretagne, c'est vraiment une histoire assez différente de nous, la Massif Central, Hautes-Alpes et... Je pense qu'il y a ça.
Thank you.
L'esthétique, je crois que ça a été, peut-être je vais parler pour moi, mais je crois que c'était un grand fantasme que j'avais de dire la Nob, ça correspond à une esthétique particulière. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas une esthétique, il y a des esthétiques. Après, il y a des points de rencontre qui sont, je pense, beaucoup dans le son, dans des recherches de timbres.
Ça veut dire quoi, des recherches de timbres?
Bah, dans la manière de faire sonner les instruments, et de, c'est-à-dire que c'est au-delà de la mélodie, trouver comment les notes, les fréquences vont jouer ensemble, résonner, et puis aussi provoquer des sons, pas nécessairement ceux qu'on joue, quoi, mais par la, voilà. Mais pour ça, on peut y arriver par des procédés très différents. Moi, je sais que je passe beaucoup par le travail du bourdon et du son continu. Chez Basile, il y a cette recherche sur les tempéraments aussi qui peuvent amener à ces choses-là. Et je crois que chacun en a notre manière aussi d'y accéder. Mais il y a ce point commun, effectivement, qui est la rencontre dans le son. Mais après, là-dedans, on va trouver des esthétiques assez très différentes aussi, malgré tout, quoi, et très diversifiées. Et c'est ce qui fait la richesse d'être en collectif.
Quoi. Okay. Alors, mais effectivement, enfin, comme a dit déjà un peu Yann, moi, plus ça va, plus je me dis qu'il n'y a pas nécessairement une esthétique qui est rattachée à ce collectif-là en particulier. Mais peut-être ce qu'il peut y avoir en commun là-dedans, je pense, c'est d'essayer d'aller porter son écoute sur des éléments sonores au-delà du dessin qui apparaît en surface, on va dire, de la mélodie, en fait. Voilà, chercher qu'est-ce qui se passe dans le son, en fait, quand on génère de la musique, quand on produit de la musique, quand on est en train de jouer, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, au-delà de ces mélodies, quoi, en fin de compte, on croit jouer des mélodies, puis en fait, ce qui sonne, c'est autre chose, quoi. Et donc, c'est un petit jeu, quoi, en fait, de l'attention et de l'écoute, d'aller porter, aller balayer par l'écoute des domaines plus larges, quoi, que juste les morceaux.
Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter ou à dire, en fait. Moi, l'image qui me vient, c'est ça, une matière sonore, c'est la vie.
Mana Serrano, violoneuse, chanteuse, membre du collectif La Nov.
Et tu as parlé de fréquence aussi, fait quelque chose d'étonnant. Dense, riche. Et là, Basile, il parle d'écoute, plus ça situe au niveau de l'écoute. Moi, par exemple, ça serait pas tant au niveau de l'écoute, entre guillemets, avec mes mots. C'est de la sensation physique, de matière qui englobe, par lesquelles on... C'est une forme d'écoute. C'est pour ça, c'est un mot, c'est... Voilà. Il y a tout, comme tu disais, comme vous disiez, il y a plusieurs portes d'entrée. Chaque individu est différent. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord à dire qu'il n'y a pas une esthétique nove, et bien sûr, et que chacun a sa porte d'entrée.
Alors, c'est sûr que moi, quand j'ai rencontré le collectif avant de rentrer dedans, je me suis sentie très proche des musiciens qui jouaient les musiques traditionnelles du domaine français. Et donc, c'est vraiment cette affinité-là qu'il y a eu. Et l'endroit où j'ai trouvé un écho aussi, c'est qu'on joue ces musiques parce qu'on les trouve. On trouve qu'elles sont en elles-mêmes très riches et qu'on n'est pas là, je le dis parce que souvent On me fait dire ça et c'est pas ça du tout. On n'est pas là à vouloir dépoussiérer ce répertoire parce qu'en soi, il est déjà complètement ultra riche. Et en rentrant dans le collectif, ça a été très beau pour moi parce que j'ai rencontré des musiques que je connaissais pas du tout, des musiques expérimentales, musiques répétitives, des musiques de micro-tonalité. Et ça m'a parlé énormément en fait. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre d'affinité, un peu comme une famille quoi. Et même dans le milieu des musiques traditionnelles, on était plutôt à part en fait. Enfin, ou pas tout à fait bien compris par certains et certaines, mais par contre d'autres, enfin, d'autres sont venus nous voir parce que justement ils trouvaient ça vachement intéressant.
Alors, est-ce qu'en fonction de la manière dont vous le jouez, dont vous le faites, est-ce que la scène sur laquelle vous pouvez vous exprimer n'est pas la scène des musiques actuelles plutôt qu'une scène des musiques trad qui est archi dominée par le bal et certaines esthétiques qui sont adaptées au bal? Est-ce que votre débouché pour les groupes, c'est pas beaucoup les smacks et le monde des musiques actuelles?
Les smacks, peut-être. Alors, en fait, dans la norme, effectivement, en fait, comme il y avait aussi des musiciens qui étaient aussi déjà dans des autres esthétiques et qui étaient en fait, enfin, suivis par certaines salles. Moi, je pense forcément aux Instants Chavirés qui ont sont des partenaires à Montreuil. Je pense au lieu unique de Nantes, en fait, qui nous a vraiment permis, je pense, de passer un cap aussi, peut-être d'être conventionné parce qu'ils avaient un intérêt. Et en fait, il s'est avéré aussi que ces salles-là ou ces programmateurs-là avaient enfin, un intérêt en fait sur ce qui se passait musicalement avec ces musiques traditionnelles et du coup on a eu plus de facilité effectivement à vendre des dates à ce moment-là, et c'est un peu encore le cas dans ces salles-là que parfois vraiment dans le bal. Après il y a quand même des gens qui vous font jouer en bal, enfin ils jouent au Basaltique régulièrement avec le CDMDT 43, avec Combourose à Saint-Gervais, voilà. Mais effectivement on a fait par exemple il y a un an ou deux en fait un gros temps à Montreuil. Les Instants, c'est vraiment une salle qui est vraiment sur la musique contemporaine, expé, etc. Et c'était hyper émouvant de faire ça là-bas. Enfin, voilà.
Et alors, par rapport à ça, moi, quand je jouais mes musiques, je voulais aussi les jouer en concert parce que j'adore le bal et j'adore aussi la forme du concert. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes choses que je vais faire. Et bien sûr qu'au début, quand je suis arrivée avec le duo Violoneuse, entre autres, qui est un groupe de concert, c'était pas du tout programmé dans le milieu des musiques traditionnelles parce que, un, il y a beaucoup de balles programmées, et deux, les oreilles n'avaient pas cette curiosité. Et en fait, comme je dis qu'on est sur le son, et ben, les milieux de musique expérimentale, musique noise, et ben là, eux, ils ont été vraiment intéressés, et il y a un public qui est vraiment venu nous chercher. Et là, je parle vraiment du public, et c'est ça, moi, qui m'a permis de commencer vraiment. Et il se trouve que maintenant, les générations changent aussi dans les musiques traditionnelles, et il y a les oreilles qui changent aussi, enfin les intérêts, les désirs. Et il y a de plus en plus de festivals de musique traditionnelle comme Comboros, Les Volcaniques, qui programment aussi des concerts à l'intérieur. Alors c'est plutôt forme acoustique, et du coup j'adore ça, les concerts domestiques, les concerts buissonniers. Et ça se fait de plus en plus ça.
Et en parlant de musique expérimentale et répétitive, abordons une question très importante, surtout pour des gens de ma jeune génération, celle des pochettes de disques.
Enfin, pour ceux qui achètent des disques.
Pour ceux qui achètent encore des disques, c'est ça. Et justement, on sent que le collectif Lanov s'adresse à ces gens parce que ils ont quelque chose de très commun avec ce monde des musiques expérimentales et du rock, c'est le soin apporté aux pochettes de disques. Le soin apporté dans deux directions. La première, c'est que souvent, les pochettes sont très jolies, avec des tableaux qui représentent des scènes forestières, etc. Des pochettes énigmatiques, sans nom sur la couverture, etc. Voilà. Et le deuxième, c'est le travail sur la conceptualisation de la pochette elle-même, avec souvent des trucs où pour aller le chercher, le CD, c'est un peu un jeu de piste pour savoir où il est dans tout ce développement de différentes faces, de trucs qui se chevauchent, qui se recouvrent, tout ça. Et je voudrais faire une petite mention particulière au choix qui a été fait pour le disque de Faune, puisque quand vous l'ouvrez, le CD, il est emballé dans un petit sac plastique rond, comme ça, vous voyez, comme à l'époque des vinyles. Ça ne sert strictement à rien pour un CD, je crois, pour autant que je sache, mais ça évoque tellement le bon vieux temps des vinyles et qu'on pardonnera volontiers cette perte de matériel totalement inutile, mais c'est pour la bonne cause.
Vous remarquerez que Yann a fait une étude assez approfondie des pochettes de disques de la Nov. On peut retrouver sa thèse en ligne sur notre audioblog, bien sûr. Voilà.
Et donc, pour illustrer ça ou pour prolonger, on va écouter un extrait de quelque chose qui est alors une pochette vraiment très compliquée. Et c'est quelque chose de très représentatif puisqu'il s'agit d'une reprise ou d'une interprétation d'une composition, une pièce qui s'appelle « In Si, en Do » de Terry Riley, un compositeur américain, et qui consiste à jouer toute une série de petits morceaux, de petites figures musicales qui sont tout en do et qui se retrouvent un peu au choix de l'interprète sur le moment, mais qui se retrouvent tout ensemble à certaines étapes. Et donc ce grand classique est interprété ici par une bonne dizaine de musiciens de la Nov.
Alors, pour rentrer dans la Nov, alors c'est, voilà, donc c'est plus, je pense que ça se joue plus sur les attraits, les goûts qu'on a et ces choix, en fait, dans l'écoute, moi, ce que j'appelle l'écoute, mais voilà, qu'on fait les uns les autres, les unes les autres. J'ai perdu mon fil. Oui, après, y a quand même le fait que, il y a des années de ça, on s'est rencontrés, on a constitué ce collectif qui a évolué, qui s'est développé. Et à un moment donné, quand même, on a dit bon, si on veut maintenir une qualité de relation et d'échange entre les membres de ce collectif, qu'on allait en fait un peu clore la composition de ce collectif. Et donc, on en est un petit peu là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la question se pose pas tellement parce que on fait pas rentrer beaucoup de gens dans le collectif parce que on a décidé à un moment donné que le collectif il était formé par les gens qui s'y trouvaient sans complètement fermer la porte. Ça peut se présenter encore quand on intègre des nouveaux membres. Il y a des départs, il y a des arrivées, mais on essaye de garder quand même une taille du collectif avec un nombre d'humains dedans qui permettent d'être en relation un peu intime, quoi, ensemble, quoi.
Ouais. Je voulais quand même dire, parce qu'on parlait de qui rentre dans la Nov et qui dans la Nov, la dernière personne qui est rentrée, c'est quelqu'un qui fait pas du tout de la musique, c'est Grégoire Horio, qui est vidéaste.
Ah oui.
Et
ouais.
Du coup, il est rentré dans la Nov parce que dans sa manière, lui, de traiter l'image et de faire de l'image, il y a quelque chose qui résonne très fortement avec nos pratiques musicales, quoi. Mais du coup, en le faisant rentrer aussi dans la Nov, ça a ouvert un nouveau champ d'exploration dans le collectif, qui va plutôt dans le visuel, qui était déjà un peu là avec, avec le travail de graphisme d'Elodie, mais qui vient là aussi d'un coup se déployer dans l'image en mouvement ou la lumière, parce qu'il fait aussi, il travaille aussi sur les dernières créations qu'on a fait, il travaille aussi sur la lumière, quoi, la mise en lumière de ce qu'on fait. La manière dont on l'a rencontré, on a commencé à travailler avec lui avant qu'il soit intégré au collectif, c'était parce qu'il faisait des vidéos, enfin qu'on va pas forcément appeler clips, mais des sortes de teasers sur, on lui demandait de faire voilà, des images sur différents projets ou créations qu'on avait. Et puis à un moment, on a eu un peu envie d'aller au-delà de ça, de travailler aussi sur des projets où l'image pouvait prendre une part entière et venir se confronter au son et à la musique, quoi. Et donc maintenant, il est intégré aussi aux créations qu'on peut faire, où lui, il apporte cette dimension-là de l'image ou de la lumière. Okay, mais qui va au-delà de... Il vient pas illustrer la musique, il rentre dans un rapport de construction au même titre que nous, en tant que musiciens ou musiciennes.
Alors on a sorti un fanzine, c'est la première fois qu'on fait ça, et donc il a été, je le regarde là, il est là, On l'a autoproduit, créé collectivement, avec des gens du collectif, ceux qui avaient envie quoi, de participer à ça, ceux et celles qui avaient envie. Puis il y a eu quelques invités aussi pour participer. Et on a vu, justement, on a créé Facette. Et Facette, c'est... Tu peux préciser, Elodie, parce que...
Alors, bon, nous, en fait, on autoproduit nos disques. Ça, voilà. Et à un moment, on s'est dit, on va faire en fait un micro-label. Parce que des fois, il nous arrivait qu'on nous demande, ah, est-ce que vous pouvez nous aider à sortir des, enfin, voilà, des disques. Et c'était pas, c'est pas notre projet, on n'est pas un label, quoi. Mais on a fait quand même un micro-label, un petit label qu'on a appelé Facette. Et où on avait envie d'aider de la production, en fait, mais d'un truc ou deux par an, mais vraiment max, quoi.
On se sent assez libre. Par exemple, je suis en train de penser à un truc qu'on a fait. On l'a fait une fois, je ne sais pas si on le refera, mais une fois, on a fait un banquet.
Ah oui.
Je veux dire, on ne se met pas de limite à ce qu'on a envie de faire, en fait.
Alors le fanzine Facette dont parlait Perrine Bourrel, c'est un superbe objet en rhizographie où l'on trouve des entretiens, des réflexions sur l'écriture de chansons, des histoires de microtonalité ou encore une iconographie brutiste.
Je crois que c'est Jacques d'abord qui a amené cette idée, ce projet, cette envie de qu'on produise un fanzine. Je pense que l'idée derrière, c'est que assez souvent, on s'est un peu agacé en fait de ce qui était, qui pouvait être produit en fait en termes d'écrit sur nos pratiques ou des pratiques de copains, copines qui ont des pratiques dans lesquelles on se reconnaît, on s'identifie. Et une petite lassitude de certaines tartes à la crème qui ont tendance à revenir de manière systématique. Et c'est pas très grave, en fait. Moi, je peux tout à fait comprendre que, quand il y a une curiosité pour la production musicale des groupes de notre collectif ou d'autres groupes qui sont actifs actuellement, il y a toujours cette question. Enfin, il y a des questions un peu récurrentes sur les musiques traditionnelles, ce que ça peut représenter aujourd'hui dans la société. Alors, il faut déjouer plein de pièges. En fait, on passe beaucoup de temps en fait à désamorcer plein de bombes. J'ai l'impression dans ces interviews, ces articles qui sont produits assez régulièrement.
Et vous passez pour les dépoussiéreurs de musique rap,
c'est ça? Mais ça peut être par exemple un des clichés qu'il faut commencer par démonter, voilà. Mais il y en a d'autres. Enfin voilà, politiquement, historiquement, enfin il y a plein de choses qui reviennent de manière récurrente. Et en fait, du coup, le temps qu'on passe à démonter ces petites embûches, quoi, qui reviennent souvent. Bah, en fait, je trouve que ça tend à nous détourner d'un propos qu'on peut avoir sur nos pratiques, vu de l'intérieur, comme on les vit, où on ne se pose pas trop la question je ne sais pas, enfin, bref. On se pose pas les mêmes questions, en fait. Et donc il y avait le souhait, en fait, de produire de quelque chose qui soit du domaine du texte, de l'écrit, et qui parle de ce qui nous intéresse dans ce qu'on fait de l'intérieur, tel qu'on les vit, quoi.
Après, ça devient aussi un objet. Ce qui me plaît beaucoup dans cet objet-là qu'on a produit, c'est que, encore une fois, ça remet en évidence cet aspect multifacette du collectif. Quoi. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans cet objet. Quoi.
Alors, on arrive doucement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé La Nov, guettez donc leur prochaine sortie de disque. Cette année, l'année prochaine, il y en aura un du groupe Versant, groupe qu'on n'a pas écouté aujourd'hui, mais allez donc voir par vous-même. Et un autre du duo Perrine Bourrel-Basile Brémaud. Voilà, vous retrouverez aussi les références des morceaux qu'on a écoutés sur notre audioblog Arte Radio à la page L'écho du parquet.
Voilà, et on va se dire au revoir et se quitter avec un morceau du groupe Faune qui s'appelle « On a gardé le meilleur pour la fin en termes de prononciation » « Las Femnas del Pels Pues ». À bientôt.
Se vos no vole pa creire agazza no lo freddo al pe e agazza no lo freddo al pe Paolo me so cucchiuse tu la la, lo di rendere.